je voudrais donc donner la parole à présent à Ida Turcic et Wilfried Mill, que je suis extrêmement heureuse et honorée d'accueillir au Collège de France cet après-midi. Tous deux sont nés en 1974. Ida est née à Belgrade, Wilfried est né en France. Tous deux vivent, travaillent à Dijon. Ils sont représentés par les galeries Almin Resch, Pietro Sparta et Alfonso Artiaco et ont remporté le prix Ricard en 2009. Ces dernières années, ils ont participé notamment à Perpetual Battles, Jean-Marc Scholar, au Baïbakova Art Project à Moscou en 2010, Les Archipels Réinventés, collection du Centre Pompidou, Vieille Charité à Marseille en 2013, Choices, Galerie Almin Resch, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris, Halftone, Galerie Max Elzer à Paris et Berlin en 2014. Je crois que cet après-midi, ils nous présentent leurs travaux d'une manière dont je crois qu'elle va être tout à fait passionnante. Et donc, je leur laisse à présent la parole. À vous, chers amis.
Bonjour, ça marche. Alors nous tenons à vous remercier vraiment très chaleureusement Claudine Tiercelin, Marc Molk, Thomas Levinan de nous avoir invités à participer à ce colloque. Je tiens également à vous dire que nous sommes vraiment demandés pendant des semaines pourquoi on avait accepté cet honneur. Nous sommes vraiment des handicapés de la parole. On a très mal à parler et on va essayer de faire ça. Mais je vois que vous n'êtes pas très nombreux, donc ça ira. Cette terrifiante perspective a causé bien plus de conflits qu'il s'en produit à l'atelier durant la réalisation d'un tableau. À l'atelier, les choses se font plutôt pacifiquement. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et vraiment très honorés d'être ici, où eut lieu le dernier cours de la série que Merleau-Ponty donna durant l'année 1960-1961 et qui portait sur la pensée fondamentale en art. C'était une véritable lettre d'amour à la peinture. Nous sommes tous deux peintres et travaillons ensemble à l'élaboration et à la réalisation de nos tableaux depuis le début des années 2000. Et pour le moment uniquement à Dijon. Donc c'est une jolie petite ville de province de 150 000 habitants. Le plus simple aurait été de raconter peut-être une journée type à l'atelier, comment on fait, comment on peint. Or en fait, il n'y en a pas vraiment parce que chaque tableau va redéfinir la manière de faire. Il nous a semblé que pour témoigner le plus justement, le plus fidèlement possible de notre manière de faire, il nous fallait l'appréhender sous un angle chronologique. En peinture, l'expérience nous a appris que le savoir est cumulatif. Les choses se font de manière empirique. Donc nous allons tenter de remonter au début des années 2000, aux sources de notre travail commun. Voilà notre seul assistant. Pour arriver jusqu'à aujourd'hui. En traversant la succession de nos différents ateliers, nous tenterons d'établir un lien, de montrer comment les lieux de travail, les conditions du travail influent sur la création, ce qu'ils permettent, ce qu'ils interdisent. On a tenté de catégoriser certaines périodes du travail de Picasso en fonction de la femme avec laquelle il vivait. En ce qui nous concerne, ça sera un peu moins sexy. Ça sera plutôt des murs d'atelier, de la tuyauterie congelée et des conditions climatiques assez pénibles.
Nous nous attarderons également sur le développement de quelques pièces emblématiques qui sont pour nous très importantes, quand elles vont évoluer en fonction du temps et des ateliers successifs, donnant suite à des reprises, des reformulations. Elles provoqueront des petites révolutions dans notre travail et dans notre façon de l'aborder. Elles sont symptomatiques de la manière dont nous fabriquons et pensons en peinture. Nous aborderons la question du comment peindre à deux, ce que cela implique, ce que cela permet, comment la technique de travail évolue au fil du temps, comment les choses s'articulent, se complètent, se contredisent, se contaminent, arrivent par réaction, par ennui, par proximité. Par désir aussi, car oui, peindre c'est peut-être avant tout une question de désir. Peindre, c'est d'abord dans la tête avant d'être dans les mains. Le fait d'avoir deux têtes et deux mains droites peut s'avérer être très utile dans de nombreuses situations. Alors non, nous n'allons pas non plus tout vous révéler. Imaginez un peintre du Moyen-Âge révélé qui se sert d'un miroir ou d'une lentille pour faire apparaître une image. Il y a fort à parier qu'il finirait sur un boucher. La question du comment faire présupposait celle de que faire, celle que Mario Merz posait en 1968. Dans la pratique, le comment faire provoque parfois le quoi faire. Pour nous, la peinture aujourd'hui ne peut plus se réduire à une question de style ni d'appartenance à l'une ou l'autre des deux fameuses catégories qui étaient l'abstraction ou la figuration. D'ailleurs, depuis longtemps, les peintres abstraits ou figuratifs travaillent d'après des images reproduites. La peinture n'est ni ceci ou cela, la peinture c'est ceci et cela. Tout ça en même temps, ou tour à tour, la peinture c'est maintenant et c'est un vaste champ de possibles. Nous sommes aujourd'hui dans une époque de grande liberté et elle est à portée de main. Nous sommes donc dans notre pratique opposés à une certaine conception monomaniaque de la peinture. La peinture ne peut pas être un geste figé et déposé comme un brevet. Elle se doit d'être vivante, réflexive, en perpétuel mouvement. Elle doit être ouverte à toutes les propositions que sa pratique produira. La peinture doit être opportuniste et consciente d'elle-même.
Nous commençons à travailler au début des années 2000. À cette époque, notre conception commune de la peinture s'articule autour de deux citations. L'une de Jacques Lacan pour définir l'amour. L'amour, c'est quelque chose que l'on n'a pas, que l'on donne à quelqu'un qui n'en veut pas. L'autre d'Alberti pour définir la peinture, une fenêtre ouverte sur le monde dans laquelle l'histoire se déroule. Nous comprenons cette phrase comme le tableau est une cosmologie. La peinture, c'est donc quelque chose que l'on n'a pas et dont personne ne veut, personne ne nous attend, et un tableau, c'est un monde en soi. La technique devra dès lors s'adapter à chaque tableau pour rendre ce monde crédible, qu'il s'agisse d'un pot de fleurs ou d'un monochrome. Cinq livres comptent pour nous à cette époque, L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, La place du spectateur de Michael Fried, Le maître et Marguerite de Bulgakov, L'éloge du mauvais esprit de Bernard Marcadet, Les couilles de Cézanne de Jean-Claude Lebesenstein. Alors nous travaillons encore séparément dans un atelier que nous louons avec deux amis. Nous n'exposons pas, nous ne cherchons pas non plus à le faire. Nous avons du travail et nous sommes persuadés que c'est en travaillant que les choses se font. Cet état d'esprit est toujours le nôtre aujourd'hui. L'atelier offre environ 60 mètres carrés de surface praticable à se répartir à 4, soit environ 15 mètres carrés chacun. L'un de nous traque dans la presse papier des clichés résonnant avec l'histoire de la peinture, passant ainsi du portrait, du paysage à la scène de genre. L'autre, lui, se concentre, se spécialise même sur la scène de genre contemporaine, traquant des nus dans des revues extrêmement spécialisées, des revues pour adultes de tous les genres possibles. Internet n'en est encore qu'à ses débuts, surtout à Dijon. Les préliminaires d'un tableau sont alors essentiellement constitués de pages arrachées dans des magazines ou sorties d'albums de famille, de collages, de dessins. Nous peignons d'après des modèles de papier. Très vite, l'outil Internet et l'ordinateur qui va avec prendront une place de plus en plus importante dans notre travail. Les collages se feront désormais sur Photoshop et nous aurons dès lors accès à la plus grande banque d'images immatérielles du monde. Il est fini le temps où je faisais poser des gens nus devant mon appareil photo. Intimidé, j'appuyais sur le déclencheur sans prendre ni mesure de distance, ni mesure de lumière. J'obtenais ainsi des magnifiques photos noires et floues.
Nous constituons une énorme banque de données, rangée tant bien que mal, qui avoisine aujourd'hui les 140 000 images, classées dans les catégories les plus diverses. Chien, actualité, NASA, fessée, fleurs, Marilyn Monroe. Plus besoin d'aller au marché pour trouver une pomme à peindre, nous tapons pomme sur Google et nous obtiendrons 2 310 000 résultats. En écrivant ces lignes, nous nous sommes rendus compte d'une chose très intéressante que nous n'avions jamais identifiée ni nommée avant. À cette époque, le recours aux substituts du réel, photos de magazines, imagerie du prêt à jeter, pouvait être appréhendé comme une fuite. Avec nos passifs respectifs, plus besoin de se confronter directement aux choses. Cette fuite hors du réel semble être la solution la plus logique, la plus pertinente, la plus acceptable pour observer et aborder le monde. Internet et les magazines en étaient les outils appropriés. La pratique continue de la peinture, dans des années à venir, inversera les rôles, ou plutôt le réel ressurgira là où nous ne l'attendions pas et d'une manière très pernicieuse. C'est l'époque où un portrait deviendra une nature morte, où la distance avec le sujet se creusera, où la peinture reprendra peu à peu, étape par étape, son autonomie. Nous travaillons alors côte à côte, dans notre petit atelier, chacun son travail, chacun ses pinceaux. Les visiteurs qui passent ont de plus en plus du mal à comprendre qui fait quoi. Visiblement, l'étroite proximité d'un atelier a provoqué une sorte de glissement réciproque de nos peintures, l'une vers l'autre, rapprochement technique, rapprochement iconographique. Nous arrivons bien après le pop art, nous naissons même précisément lors de son avènement. Les œuvres, le monde, les hommes sont désormais des objets de consommation. Nous jouissons tous de l'instant présent, l'image est jetable, remplaçable, voué de toute façon à cette grande déchetterie contemporaine qui est celle de l'instantanéité. Une image en remplacera une autre, un événement en remplacera un autre, un choc en produira un autre. Le culte du corps est alors à son apogée. L'industrie culturelle se rapproche de celle du divertissement.
Donc nous décidons donc de fusionner, de travailler à deux sur les tableaux. Au départ, il s'agit surtout de collages travaillés sur ordinateur que nous réalisons ensuite sur les toiles en grand format. Alors les petits cœurs ne font pas partie des tableaux. On identifie aisément des parties différentes dans le tableau, mais de manière ordonnée et cohérente. à peu près prévue à l'avance, même si pour finir le tableau, une part d'imprévu, la peinture, viendra systématiquement mettre le point final. Alors deux sur un tableau, c'est idiot, mais oui, au début, l'ego en prend un coup. Le premier coup de pinceau, je dis bien coup, distribué par l'autre sur le tableau sur lequel vous travaillez depuis deux semaines, est difficile à avaler. Nous ne sommes plus des peintres seuls dans l'atelier, préoccupés par quelque chose que personne d'autre ne peut comprendre et dont nous sommes seuls responsables, dans une posture quasi mystique. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre avec qui s'engueuler, avec qui penser. Pire, il y a quelqu'un en plus de vous-même qui attend également quelque chose de vous. Nous partageons une vision commune de ce que doit être le résultat final d'un tableau. C'est pourtant souvent la peinture qui finira le travail. C'est elle qui aura de toute façon le dernier mot, avec ses imprévus, ses surprises, ses contradictions qu'il faudra accepter ou non. Nous ne perdons jamais pour autant ce sentiment de solitude ressenti, ce sentiment spécial d'appliquer le pinceau sur la toile, ce sentiment d'en être responsable comme si votre vie en dépendait. Les premiers résultats communs dépassent nos espérances et nous fusionnons définitivement. La première partie de notre travail ensemble consistera donc à montrer des images qui ne sont pas montrables, à faire à partir d'images pornographiques, des grands tableaux, des nus de 2 mètres par 4 ou des aquarelles très délicates. Tout commence donc par une histoire d'amour qui glisse vers une histoire de poils. Plaisir, peine, accord et désaccord, organisation et chaos seront le fondement de ce que nous sommes aujourd'hui.
Nous n'avions ni concept ni programme préétabli. Nous tentons de rester attentifs, chacun à notre manière, au développement interne de la peinture lors de sa production. Le fait de travailler à deux nous permet d'accepter des choses que nous n'aurons jamais faites seuls. La peinture est conceptuelle en elle-même et c'est depuis toujours. De Lascaux à aujourd'hui, elle naît de l'esprit et traverse le corps d'un homme avant d'arriver sur la toile. En ce qui nous concerne, elle est forcément d'un dialogue qui peut être plus ou moins houleux selon les périodes, les tableaux. Selon la série ou l'image que nous allons peindre, la facture s'adaptera au sujet, la peinture en quelque sorte une actrice autonome qui a ses idées, libre à nous de l'écouter ou pas. Les déterminismes extérieurs nous donneront le contexte, la situation, l'ensemble formera bon gré, malgré un sens au fil du temps. Selon David Hockney, la photo aplatit le monde alors que la peinture lui redonne chair. Peut-être lui redonne-t-elle également vie et sens. La peinture est une activité solitaire, c'est même à deux. Parfois nous sommes 1 plus 1 égale 1 et parfois nous sommes 1 plus 1 égale 2. Nous pratiquons un aller-retour incessant entre ces deux formules mathématiques au gré des envies depuis une quinzaine d'années. Parfois nous réalisons un tableau fait par un peintre, on ne sait pas qui fait quoi. 1 plus 1 égale 1. Comme dans ce portrait de 2006. Ou encore ce tableau de 2011 où deux personnes semblent communiquer, communication. Là, bien sûr, nous travaillons d'après des images trouvées. Ou encore, par exemple, ce petit tableau nocturne des petites fleurs qui poussent aux abords de notre atelier de 2011. L'un de nous prend la photo et nous la peignons. Après avoir passé 10 ans à écumer tous les magazines, tous les sites d'Internet, ces petites fleurs qui poussaient près de notre atelier n'avaient rien à envier aux plus grands mannequins du moment. Elles étaient simplement là, et c'est probablement depuis le début. Prises au flash, comme des biches, surprises par nos pleins phares en rentrant la nuit de l'atelier, ces fleurs sauvages, ces mauvaises herbes révèlent toute leur beauté dans cette posture nocturne et inhabituelle.
Alors parfois la participation des deux sera rendue volontairement plus visible, mise en avant, comme une superposition, comme un dialogue pictural, 1 plus 1 égale 2. On peut voir clairement ici deux interventions distinctes qui se répondent, et ce même si c'est une seule personne qui peint. Ce tableau s'appelle « Exposition », il date de 2005. Un bulldog français regarde ce qu'on lui montre. D'une autre manière, certains tableaux sont constitués de plusieurs couches superposées, comme dans ce crâne fleuri de 2003. L'assistant est toujours là. En peinture, le temps est élastique, des choses vont dormir pendant plusieurs années, pourraient apparaître autrement, bien plus tard, ayant emprunté un chemin différent. Nous avons commencé ce crâne en 2012, pour le finir en 2014. Atelier numéro 1. Les conditions en hiver dans l'atelier numéro 1 sont peu excitantes. Il n'est pas isolé, pas chauffé. Certains hivers, il fait moins 15 degrés à Dijon. Les tuyaux d'eau gèlent et nous restons pendant 3 à 6 mois sans eau. Dans ces conditions, la pratique de l'aquarelle n'est pas vraiment recommandée, ni celle du dessin. L'appartement de 30 mètres carrés que nous partageons alors avec notre chien deviendra l'atelier des choses sur papier. Quand il pleut dehors, il pleut dans l'atelier. À chaque gel, les tubes de peinture à l'huile se durcissent un peu plus chaque année. L'huile finit par se cristalliser en se séparant du pigment. Nous sommes aussi vraiment confortés par notre choix initial de la peinture à l'huile face à celui de l'acrylique. Nous prenons notre première carte de fidélité au magasin Damar et nous allons tous les jours à l'atelier, n'ayant rien de plus intéressant à faire. Donc nous avons deux manières d'aborder le travail différentes. L'un est bordélique, l'autre classe ses tubes par couleur, pire par nuance. L'un a besoin d'écouter la radio pour avoir le sentiment d'être relié au monde, pour entendre quelqu'un parler, et l'autre met un casque pour s'isoler. L'un arrive et se met au travail directement, l'autre tourne autour du tableau pendant des heures. Voilà. Chacun ses pinceaux, chacun ses rituels.
En 2002, nous préparons notre première exposition chez Pietro Sparta. Les tableaux de 7 mètres par 3 sont au programme et il est impossible de les réaliser dans notre atelier. Yan Peiming, pour qui je travaille occasionnellement, nous prête l'un de ses nombreux ateliers à Dijon. Nous goûtons alors au luxe de l'espace, à un bon éclairage naturel, au plaisir de poser plusieurs tableaux côte à côte, de voir ainsi comment ils fonctionnent ensemble, d'en isoler certains pour les regarder autrement, d'en mettre à côté pour ne plus les voir. Ici, quand il pleut dehors, il ne pleut pas dedans. Le grand format, jadis réservé aux tableaux d'histoire, sert ici des tableaux assez troublants, où sujet et matière sautent aux yeux. À cette époque, nous partons souvent d'images pornographiques. Cette iconographie nous semble alors être la plus pertinente politiquement pour décrire le monde et le mécanisme des rapports humains, la dérive consumériste déjà annoncée par le Popard. La pornographie prétend tout montrer, tout donner à voir. Puisqu'ils ne sont peintres, il nous a semblé évident que c'était cela le ressort, le sujet même de la peinture. Tout donner à voir au risque de montrer qu'il n'y a rien à voir. Ensuite, la question du format, du grand format, implique le fait d'une part la peinture soit charnelle, généreuse, et d'autre part le spectateur soit totalement immergé dans ce qu'il conviendrait d'appeler des grandes peintures géométriques ou des béances figuratives. À l'époque, nous aimons beaucoup Mondrian. Les couleurs sont vives, très roses et assez bizarres. Quand nous le comprendrons plus tard, dans notre atelier de l'époque, les tubes néons sont très verts, ce qui fait que nous chargeons constamment et inconsciemment les couleurs du tableau en rouge pour compenser. Nous aurons beaucoup de surprises quand les tableaux sortiront de l'atelier à la lumière du jour. Les images sont aguicheuses, parfois drôles, parfois repoussantes. L'actualité aussi. Nous sommes à la veille de la déclaration de guerre des États-Unis à Irak, la 12e. Cela paraît inévitable, ça l'a été. Nous peignons la Grande Éjac, remplaçons le décor, la scène où se situe l'action, par une image du fleuve Tigre, y ajoutant un ciel rouge.
Nous allons donc nous arrêter sur ce tableau réalisé à cette époque, The Face, en 2002. Ce portrait de 2 mètres par 1,50 m est réalisé à partir d'une image extraite du magazine du même nom, The Face. C'est un peu la norme à l'époque, tous les peintres figuratifs peignent d'après des images préexistantes. Le déplacement est simple, nous peignons d'après une image produite par un autre, déjà réfléchie, et nous l'utilisons pour en faire un tableau, comme si un modèle avait posé. Nous en sommes assez satisfaits, mais nous nous sentons néanmoins un peu frustrés, ayant le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Le tableau est un portrait, le plan serré ouvre sur le visage d'une jeune femme, en gros plan, les yeux sont grands ouverts, très maquillés, une tête coupée qui regarde. La manière de peindre est assez jetée, nous avons utilisé des larges brosses. Nous mettons le tableau à l'isolement dans une partie de l'atelier. Sur le sol, l'image originale traîne, elle regarde aussi, mais elle a quelque chose de plus étrange encore, de plus évident, mais on ne sait toujours pas quoi. De retour dans notre petit atelier, 4 mois après avoir passé dans un grand immense espace, le portrait est encore là, il regarde toujours, faisant naître le sentiment que quelque chose se passe ici, que le tableau pourrait être refait différemment, mais sans savoir exactement ce qu'il faut changer. Il nous faudra 3 ans de coexistence avec l'image pour continuer à traîner quelque part. Il nous faudra 3 ans de coexistence avec l'image qui continuera à traîner quelque part dans l'atelier pour comprendre comment et pourquoi le refaire. Nous décidons de repeindre cette image en 2006, soit 4 ans plus tard, mais cette fois-ci sans cacher la nature, la provenance de l'image, la nature du sujet, sans vouloir en faire un portrait, sans vouloir en faire autre chose que ce qu'elle est. Nous décidons donc de la repeindre, la page arrachée telle qu'elle avec ses traces de déchirure. Le fond blanc de la toile devient l'espace sur lequel est posée la page, la peinture devient le lieu du questionnement de l'objet, la marge blanche met à distance le sujet, le tableau n'est plus un portrait, il est devenu une nature morte, un tableau où est représentée une page arrachée, la source originelle de nos peintures jusqu'à présent. La technique, elle aussi, devra s'adapter. La peinture n'aura plus à réinterpréter l'image par une touche identifiable, comme une sorte de conquête sur l'image. Non, elle devra se mettre en arrière pour se mettre en avant. Elle devra être la plus fidèle possible pour tenter de restituer l'objet.
À la même époque, un poula de peindre des orgies, ayant le sentiment de commencer à nous répéter, nous avons décidé de peindre des paysages. De même que la pornographie nous semble être la façon de réintroduire le nu et le portrait en peinture, éruption volcanique, photo de la NASA et maison en flammes nous semblent être des motifs de paysages idéaux. La longue séquence de l'incendie dans le sacrifice d'Andrei Tarkovski sera pour nous une source d'inspiration parfaite, le renoncement matériel pour l'élévation spirituelle. Tarkovski filme les paysages en faiseur d'icônes. Les icônes ne sont pas accrochées platement au mur. Non, elles regardent vers le bas. Elles sont légèrement inclinées comme si elles se penchaient vers nous. Chez lui, dans le paysage, c'est le même processus qui est mis en place. L'horizon est placé haut dans l'image, le ciel ne représente qu'un tiers du cadre, alors que dans le cinéma hollywoodien, dans les westerns par exemple, le ciel occupera plutôt les deux tiers. Chez Tarkovski, vous regardez les choses d'en haut comme un dieu qui regarde les hommes avec bienveillance et incompréhension. Le plan hollywoodien vous place au contraire en homme qui regarde vers le ciel, c'est l'homme qui regarde vers le haut, peut-être à la recherche de Dieu. Nous avons décomposé la séquence image par image et supprimé tous les personnages. Pendant ce plan de 6 minutes 50 secondes, la caméra avance et suit le personnage principal. Au fond, la maison brûle. Le personnage étant supprimé, les secondes du plan ainsi mises bout à bout donnent l'impression que le regard se déplace dans le paysage, traquant quelque chose qui n'est désormais plus là. Une fois le tableau exposé, c'est le spectateur qui se déplace dans le paysage réassemblé, plongé au milieu du temps. Le spectateur et la maison en feu deviennent des personnages principaux. La technique s'adapte au sujet. La manière héroïque des tableaux porno, appelons-les comme ça, cède ici la place à une technique plus brumeuse, plus incertaine, moins gore en somme.
Peindre les pinceaux s'avère très bizarre. La manière chargée à l'huile appliquée au pinceau alourdit considérablement cette chose légère et volatile qu'est le feu. Nous aurons donc recours à des aérographes. Nous utiliserons ce matériel en autodidacte, parfois même à contre-emploi. Au début, nous éprouvons quelques complexes à recourir à cette technique et réalisons assez vite qu'elle est aussi vieille que la peinture. Les hommes des cavernes soufflaient déjà la couleur, utilisant leurs mains comme pochoirs. Dans le même temps, nous pratiquons beaucoup l'aquarelle à la maison. En aquarelle, le blanc du papier est le blanc final. Le blanc, donc la lumière, provient du papier. Nous essayerons désormais d'appliquer cette technique à la peinture. Le blanc de la toile est plus clair, plus lumineux que tous les blancs que nous pourrons rajouter par la suite sur un tableau, car il semble éclairé de l'intérieur. Nous trouvons des petites astuces pour le faire. C'est donc muni de ce nouvel attirail, en plus des pinceaux, que nous referons le tableau The Face en 2006. À ce moment-là, nous sommes très contents. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir réalisé un tableau de plus, mais le pressentiment que ce petit déplacement, le fait de peindre l'image comme un objet, va déterminer, modifier le travail que nous ferons par la suite. Nous retravaillons cette image en 2013, après une nouvelle évolution. S'en suivra bientôt toute une série de natures mortes, les pages arrachées. La réalisation de ces pièces va nourrir, elle aussi, une nouvelle fois notre travail. Lors des séances, l'image qui nous sert de modèle s'abîme, gardant les stigmates de la session précédente. Notre deuxième atelier, sec et isolé, où nous pourrons stocker ou laisser traîner des images, rendra cela possible.
Interview, mai 1998, page 91. La tache aveugle. La tache aveugle est une petite tache en forme ovale située sur la rétine de l'œil, à l'endroit où le nerf optique rejoint le globe oculaire. Dans cette zone, il n'y a pas de sensibilité aux rayons lumineux du fait de l'absence de cellules réceptrices. Le cerveau remplit ce trou de vision par la contamination des éléments présents tout autour de cette zone. L'image qui nous a servi de modèle avait été préalablement arrachée, peinte, en 1998, puis oubliée par l'un de nos amis de Beaux-Arts, ancien colocataire du premier atelier, Laurent de Recourt. Elle provient du magazine d'Andy Warhol, interview, et date de 1998. Nous peignons en même temps ce paysage de Best. La photo est d'un Polaroid trouvé sur Internet. Nous conservons les angles ronds sur l'image afin d'en souligner la provenance. Pour l'instant, notre pratique répond toujours à la logique de 1 plus 1 égale 1. Un an plus tard, nous restons attentifs à la page arrachée et déjà peinte de la jeune fille blonde étendue dans l'herbe qui traîne dans l'atelier. La première session de peinture, la 12e pour être exacte, a laissé des traces sur l'image. Traces d'huile, gouttes de peinture, taches de couleur. Les images s'abîment comme un portrait de Dorian Gray. Pendant ce processus, la page, le modèle se salit, récupère des taches de peinture, évolue, vieillit. Elle est alors mûre pour être repeinte une nouvelle fois, avec ses nouvelles taches, ses nouvelles traces, les évidences de sa disparition deviennent les preuves de son apparition. C'est comme peindre la peinture elle-même, c'est comme peindre son suaire. De même pour le petit paysage en feu de Best. L'état physique de ces images nous plaît. Nous décidons de les repeindre tous les deux, cette fois-ci en réintroduisant aussi méticuleusement les traces de peinture, d'usures qui se sont ajoutées avec le temps. Le premier déplacement était plutôt d'ordre conceptuel, une mise à distance. Le second sera plutôt d'un ordre factuel, la mise en avant du processus. Le principe de prostitution, au sens latin, prostatuere, placé devant.
C'est comme si nous peignions et repeignions une pomme après un laps de temps prédéfini, comme pour assister à la beauté de sa décomposition. L'image nous semble vouée à disparaître, telle la passante furtive de Baudelaire, la peinture, elle, semble tout faire pour s'y opposer. C'est bien de la disparition de l'icône qu'il s'agit, mais également de la réaffirmation de la présence de la peinture, de la visibilité rendue effective du processus lui-même. Avec mon père qui est graveur, nous trouvons une technique de gravure bio. Les plaques se développent au soleil, pas besoin d'acide. L'avantage inattendu de cette technique, c'est qu'elle est très instable. Ouais, ça ressemble plus à un défaut. Au fur et à mesure du tirage, les plaques se dégradent, des anomalies apparaissent. Fort de cette nouvelle expérience technique, nous travaillerons donc sur une série qui s'appelle Random, qui propose une variation aléatoire en 33 mouvements d'un même portrait de femme. Comme pour en épuiser le sujet, nous expérimenterons de multiples combinaisons avec les quatre plaques, rouge, jaune, bleu, noir, qui servent à former une image en couleur, tantôt en les décalant, tantôt en les inversant, tantôt en les renversant, la couleur bleue sur la plaque jaune, etc. Ce qui avant était probablement une trace biologique sur le visage, un trou sémantique, devient ici un défaut, un trou physique, une putréfaction interne de l'image. Nous appliquerons cette méthode à la blonde, faisant se dégrader les quatre plaques noires, rouges, jaunes, bleues volontairement, en les préparant mal. C'est un tirage de 36 exemplaires uniques, durant lesquels l'image va se dégrader, condamnée à disparaître, condamnée à être remplacée. La tragédie de la pin-up. La fois où nous sommes peut-être allés le plus loin dans la disparition de l'icône, c'est peut-être avec ce tableau de 2011, représentant un petit mot écrit par Marilyn Monroe. Au premier abord, il n'y a pas d'image, seulement du texte, même si le tableau reproduit le scan d'un télégramme, donc une image préexistante. L'icône, Marilyn Monroe, n'a pas besoin de l'image pour apparaître. Sa seule signature évoque sa présence, déclenche une sympathie. On peut imaginer sa voix, imaginer sa bouche prononcer les mots.
Dans la salle où ce tableau avait été exposé au Fracovergne, nous avons également installé notre mur d'atelier, sur lequel tous nos derniers tableaux avaient laissé des traces. La seule chose qui résistait et répondait face à l'absence de l'image, c'était le champ de bataille lui-même. L'utilisation de l'aérographe va également provoquer l'apparition parallèle et involontaire d'une nouvelle série. Pour tester les couleurs, pour nettoyer les pistolets, nous utilisons des feuilles A3 sur lesquelles nous purgerons le matériel. Le premier atelier est humide, petit, les feuilles, une fois le tableau achevé, partent naturellement à la poubelle. Les déchets en peinture nous ont toujours fascinés. Depuis nos débuts, nous raclons nos palettes et stockons les rebuts des sessions de travail dans des pots de peinture vides. Les déchets en peinture ont quelque chose d'évident. Atelier numéro 2, caserne du 26e Dragon, 1 plus 1 égale 2. En 2006, nous emménageons dans une ancienne caserne réhabilitée par la ville de Dijon. Le lieu est chauffé et isolé, il se situe sur un terrain vague, assez joli, d'où proviennent des petites fleurs sauvages de tout à l'heure. L'atelier est trois fois plus grand que le précédent, il sera dès lors possible de travailler sur papier, de stocker des choses, de laisser des tableaux visibles. Nous commençons à conserver les feuilles de nettoyage des aérographes, les barbouilles sur un mur dédié, comme en fond d'écran, sans savoir quoi en faire. Il y a quelque chose de tenace dans ces déchets. Nous décidons de les scanner et de les faire imprimer en grand format, 2 mètres 50 par 2.
Ces rebuts dans leur nouveau format imposent des coulures aléatoires, des motifs hasardeux, autant d'éléments qui témoignent de la vitalité de la peinture à travers l'accident. Ils résonnent également avec la situation picturale du moment. Ils ne sont absolument pas prémédités et se fabriquent quasiment tout seuls. Nous leur donnerons le titre des tableaux pendant lesquels elles sont nées, un peu comme si elles en étaient la charte colorée, la carte d'identité. À cette époque, chaque tableau donnera également naissance à 2 autres produits dérivés. Sur une feuille de papier aquarelle, nous reporterons toutes les couleurs utilisées sur un tableau. Sur une autre feuille, nous mélangerons toutes ces couleurs, obtenant ainsi un monochrome gris ou marron propre à chaque peinture. C'est amusant car nous peignons à la main des images qui ont souvent été imprimées et nous faisons maintenant imprimer des vraies taches de peinture, des accidents totalement abstraits, enfantés par la pratique. D'une certaine manière, il s'agit toujours de nature morte. Au premier abord, ces tableaux ressemblent à des tableaux abstraits, mais en les regardant de plus près, on reconnaît des morceaux de scotch d'une taille surdimensionnée. Il s'agit toujours bien de pages reproduites.
Superposition, The Back of Design, Hollywood. Pendant les incendies de Los Angeles de 2007, des magnifiques images tournent en boucle sur toutes les chaînes d'actualité à la télévision. On y voit le Hollywood sign se faire lécher par les flammes. Nous recherchons des images sur Internet et tombons par hasard sur un fait divers qui retient toute notre attention et donnera naissance à une nouvelle série. Peg Entwistle était une jeune actrice du début des années 30 en Californie. Désespérée par une carrière qui patinait, elle avait mis fin à ses jours un soir de 1932, se jetant du haut de la lettre H du Hollywood sign, qui s'appelait encore Hollywoodland. L'ironie du sort voulu qu'une proposition de premier rôle pour le cinéma arrive dans sa boîte aux lettres le lendemain de son suicide. L'image qui illustre le fait divers dans la gazette locale est une petite photo noir et blanc, passée, au bord arrondi, représentant l'envers du signe de Hollywood qui surplombe une magnifique vue de Los Angeles. Nous agrandissons et repeignons ce paysage sur un format de 2 mètres par 3. Ce qui est drôle, c'est que pendant que nous dessinons le paysage, il est posé juste à côté d'un châssis vide. La structure du signe, le don du signe correspond exactement au don d'un tableau. Il y a quelque chose de tautologique dans cet objet. Il parle de lui-même et pose la question de l'envers du décor. L'analogie est séduisante. Le résultat est assez satisfaisant, mais il nous manque quelque chose. L'image est trop directe, trop facilement compréhensible, la peinture est trop plate et passe à côté de ce qu'il y avait de magique dans la petite photographie. Il manque au tableau de la profondeur, la patine du temps, il lui manque le mystère, la complexité de l'événement, il lui manque son fantôme.
Nous décidons donc de reprendre le tableau assez brutalement. Il y aura clairement un tableau peint auquel s'ajoutera une autre couche, une autre intervention. 1 plus 1 égale 2. Nous mettons au point une sorte de glacis composé de pigments d'argent. Les autres composants resteront secrets. Après quelques essais, nous trouvons la bonne formule. Non seulement la dernière couche reste transparente, mais en plus elle creuse la profondeur. L'image acquiert un nouveau relief. Conséquence inattendue, elle perturbera selon l'éclairage la lecture de celui-ci. Plus le tableau est éclairé, plus le pigment d'argent devient brillant, rendant difficile la lecture de ce qui est représenté sous cette couche. L'image est perceptible, mais pas immédiatement. La couche s'opacifie, le tableau est comme couvert d'un voile fantomatique. Dans la pénombre, ou éclairée indirectement, l'image réapparaît. Les laviers argentés perturbent ainsi la lecture, mettant ainsi le sujet à distance, en créant une sorte de brouillard, une brume qui cache et qui révèle à la fois ce qu'il y a dessous, donnant l'impression que l'on peut s'y cogner à tout moment. Cette couche reformulera aussi pour nous la question du sujet en peinture. Qu'est-ce qu'il y a à voir en peinture? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment est-ce qu'une image peinte peut parler d'autre chose que d'elle-même? Il nous semble aussi très intéressant de constater que cette série commence par une disparition. C'était déjà le cas avec les incendies et aussi avec cette blonde étendue dans l'herbe. Ce nouveau tableau met donc en évidence la représentation de l'arrière du tableau, ce qui est obscène, son ossature. Bien que s'offrant au regard, ces peintures semblent mettre à jour les conditions mêmes de leur apparition, les choses et leurs revers, leur système de production.
En 2009, à l'occasion d'une exposition chez Armin Resch, nous partirons d'une image extraite du film « Blow Up » de Michelangelo Antonioni, datant de 1966. Après un reportage photo sur les sans-abri, Thomas, le personnage principal, photographe de mode, passe la matinée dans le Marion Park. Attiré par la lumière, il prend des clichés. L'endroit est presque désert, excepté un couple qui s'embrasse, que Thomas photographie de loin. Il développe les photographies et réalise au cours d'agrandissements successifs qu'il a été témoin d'un meurtre. Il se rend de nuit sur les lieux et découvre le cadavre que ses photographies lui ont révélé. De retour chez lui, il trouve son atelier vide. Tous ses clichés négatifs ont été volés. Au petit matin, il retourne au parc et découvre que le corps a lui aussi disparu. Le photographe cherche, par des agrandissements successifs, à retrouver la vérité dans l'image. Nous partons donc de cette image très dégradée, très floue. Sur ce tableau, nous commençons d'abord par peindre ce couple enlacé dans le paysage noir et blanc. L'image est incertaine. Nous ajoutons à la vie argentée. L'image déjà abîmée par les zooms recule encore un peu. On agrandit, on ne reconnaît plus rien. Contrairement à Thomas, nous ne cherchons pas à savoir ce qui s'est passé, mais ce qui se passe à l'instant précis où la lumière se décompose sur le paysage, à l'instant où le monde devient image, où l'image devient point sur la toile, s'abîmant dans l'incertitude de l'agrandissement. Pour finir, nous décidons de rajouter une couche à ce tableau gris. La trame, l'aspect graphique de l'image agrandie, affirme une autre réalité que celle de la vérité traquée dans le détail photographique.
Comme si tout n'était composé que d'éléments abstraits divers qui, mis bout à bout l'un sur l'autre, formeraient un ensemble, une vision atomique du monde. Ici, nous rajoutons manuellement une grille blanche à la peinture à l'huile avec un blanc très spécial. La grille qui sera appliquée soit en pochoir, soit comme tampon, la trame répétitive de la grille donnera au tableau une dimension mécanique. L'image disparaît et la peinture s'affirme. Nous tentons de vider l'image pour ensuite la remplir de peinture. Le voile transparent qui laissait deviner de manière passive qu'il y avait quelque chose à voir cède ici la place à une grille qui va obliger le spectateur à chercher de manière active ce qu'il y a éventuellement à voir. Observer, c'est être actif. Observer demande un effort. Observer, c'est être vivant. On ne pourra voir que la grille ou chercher à voir au travers de ses multiples trous. En 2012, nous déménageons dans un atelier à 30 km de notre appartement. Nous regoutons alors au plaisir du grand espace, à la possibilité de travailler sur plusieurs tableaux à la fois, de les peindre au sol avec de grandes flaques de couleurs. Comme pour n'importe quelle peinture, une superposition de couches, de touches, va former une visibilité cohérente, reconnaissable. Ici, les couches superposées vont peut-être imposer un nouveau regard. Dans ces tableaux embrumés, il y a quelque chose qui répond à l'envahissement des images aujourd'hui. Au final, il y a peut-être quelque chose à voir, peut-être pas. En tout cas, la question du manque à voir est posée.
En fait, vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de conclusion, car le travail est perpétuellement en cours de construction. Nous savons ce que nous allons peindre dans un an et demi, car nous sommes toujours en retard, mais il est impossible de dire ce que nous ferons dans 5 ans. Nous parlerons d'une série que nous avons inaugurée avec 2 tableaux il y a un an chez Pietro Sparta à Chagny, dans une exposition qui s'appelait La Nuit. Série que nous développons actuellement et qui sera exposée chez Armin Rasch dans un an à Paris. Dans les premières années, dans les petits ateliers, nous faisons souvent des tableaux de très grand format qui s'exécutaient en moyenne en 15 jours. Aujourd'hui, dans un atelier de 400 mètres carrés, nous peignons de plus en plus de petits formats sur bois et le temps de réalisation ne se compte plus en semaines, mais en mois. Chaque série que nous avons ouverte est pour nous comme une pièce dans laquelle on revient de temps en temps. Aucune porte n'est fermée, cela avance par envie. Depuis le début, notre désir est celui de faire ce qu'on veut et de le faire à plein temps. La peinture est donc pour nous une activité solitaire qui se pratique à deux. La peinture est notre espace de liberté et notre lieu d'asservissement volontaire.
Elle reste sans doute ce qu'elle a toujours été, causa mentale. Il semble évident que la peinture est devenue au fil des siècles un médium extrêmement pervers, compliqué, une sorte de millefeuille sémantique qui renvoie aussi bien lui-même qu'à celui qui l'a fait, qu'au monde qui le voit naître. Nous terminerons donc sur cette série, une autre manière d'en rajouter une couche, mais cette fois-ci peut-être en sapant le sens original de l'image, ou tout au moins en l'utilisant simplement comme une phrase faisant partie d'un tableau, comme un mot fait partie d'une phrase. En peignant ce tableau inspiré par un tableau d'Asgarian, Le canard inquiétant en 1959, et par une image représentant un concours de beauté à Miami en 1952, Le canard inquiétant viendra dédramatiser la situation ou le rendre plus étrange encore. Il y a désormais 2 façons de peindre qui dialoguent ensemble. Ici, nous défigurerons le personnage principal du tableau d'un épais coup de peinture qui posera son empreinte sur son visage. Les vêtements qu'elle enlève sont des chiffons pour essuyer les pinceaux. Et ici, il s'agira de révéler une pyramide cachée sous une montagne à Visoko en Bosnie. Et là, nous ferons repousser les fleurs. Merci.